Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, comme il faut dire maintenant, comme on aurait toujours dû le dire. Écoutez, ça va dépendre du thermomètre un peu, cette question. Combien de temps va durer l'humanité avec la chaleur de cette semaine, les pronostics sont plutôt annoncés à la baisse. Mais
je vois que tu veux absolument qu'on démarre sur la météo.
Bah écoute, de toute manière, on peut pas y échapper. Alors on va pas faire la météo, mais effectivement, il est à noter que on a rarement eu une canicule aussi forte, jamais aussitôt. Et d'ailleurs, ça a surpris un peu tout le monde. Alors vous me disiez, est-ce que je vais ouvrir sur la météo ? Bah oui, en l'occurrence, puisque je vais même anticiper sur ma chronique, parce que c'est pas l'agenda de Madame la ministre qui a été très prenante. Il n'y a pratiquement rien dessus, mais par contre, elle a dû faire un communiqué de presse, pratiquement une urgence hier, sur la situation caniculaire du mois de mai. Alors d'habitude, c'est en juin ou en juillet, mais maintenant, c'est en mai. Donc voilà, comme quoi, tout change. Mais effectivement, alors le sujet de cette semaine, c'est pas la météo, même si on en reparlera un petit peu, ce sont les data centers et puis surtout la...
Qui doivent se refroidir.
Ah ben oui.
C'est peut-être ça le...
Voilà, il y a une connexion, mais il y a aussi surtout la question de l'accès à l'information sur les data centers. Et alors on reçoit... Anne de Tazonas de Moncel, qui est le groupe qui tu diriges, comment
dire ? Moi, je suis cofondatrice du commun de connaissances Catapulte avec Jacques Araskiewicz, qui est directeur de l'école de journalisme de Cannes et qui a aussi un laboratoire de recherche à l'université de Nice. Voilà, et à l'origine, juste pour situer rapidement, on s'est rencontrés dans le cadre des états généraux de la formation et de l'emploi des jeunes journalistes organisé par la Conférence des écoles de journalisme, et j'étais à l'époque déléguée générale de la Conférence des écoles de journalisme. Et c'est dans ce cadre-là, donc une réflexion sur la formation des journalistes, qu'on a lancé le commun de connaissances Catapulte.
Effectivement... Alors moi, je voudrais tout savoir sur la Catapulte. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes...
Alors pourquoi ça s'appelle Catapulte ?
Oui.
Alors, en fait, l'idée de la Catapulte est venue d'un échange avec un marin, militaire d'ailleurs. Et qui expliquait que sur les porte-avions, pour faire décoller les avions, en fait, les pistes étant particulièrement courtes, la seule façon de faire décoller ces avions, c'était d'avoir des catapultes. Et il expliquait que ces catapultes étaient actionnées par des humains, souvent des jeunes marins, qui tenaient en fait la vie des pilotes entre leurs mains. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais au fond, c'est vraiment une allégorie de la question climatique et de l'humanité face à la question climatique. On a une piste beaucoup trop courte et on a besoin de créer des effets de levier. Voilà. Donc c'est parti de là, en fait,
donc
le mot catapulte. C'est l'effet de levier pour comprendre vite, mieux, des sujets qui sont vraiment d'intérêt général et prioritaire.
Et je vais me permettre juste de faire une petite remarque d'ordre géopolitique. Les catapultes elles-mêmes qui existent sur le porte-avions Charles de Gaulle et sur probablement le prochain sont des catapultes américaines. Et donc le grand problème de la Royale, de la Marine si vous voulez, c'est justement de savoir jusqu'à quel point nous pouvons encore être autonomes à l'avenir, puisque les catapultes ne sont pas...
Ok, bon, eh ben écoutez, après ces digressions formidables sur le pont du Charles de Gaulle... Mais
je précise que la catapulte n'est pas perçue comme une arme, mais comme un effet de levier. C'est extrêmement important.
Tout à fait. Mais effectivement, ça revient aussi à un méga lance-pierre, mais pour le dire autrement. Mais le sujet, malgré tout, c'est plutôt ce qu'on va catapulter que la catapulte elle-même, puisqu'on voulait ouvrir le débat sur les data centers. Alors, les data centers, tout le monde sait ce que c'est à peu près, ou du moins voit de l'extérieur ces espèces de boîtes noires dans lesquelles il y a des milliers et des milliers d'ordinateurs pour faire tourner notre cyberespace.
Les data, c'est les données, en français.
Exactement.
Et d'ailleurs, on dit centre de données.
Oui, aussi en français, oui. Mais bon.
C'est vrai que ça fait plus sérieux quand on dit « data centers ».
Bon, je ne sais pas, c'est plutôt le plus commun, mais bon, effectivement, ça préfère pas moins sérieux que de dire le centre de données. En tout cas, ça permettrait de comprendre plus directement. Mais bon, c'est vrai que ça met un petit côté, hollywoodien d'être dans des data centers. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais Ben, là, puisque tu avais envie de parler, c'est parce que tu voulais présenter, ouvrir sur ta chronique, c'est
moi,
ça ?
Moi, je voulais vous parler d'autres événements importants. Et notamment, il y a un personnage politique qui a disparu il y a 5 jours,
oui.
Et qui s'appelle Huguette Bouchardot. Et Huguette Bouchardot, c'est un personnage qu'il ne faut pas oublier. Elle était d'ailleurs la dirigeante du Parti Socialiste Unifié, le PSU, qui n'existe plus vraiment. Mais elle a été, au fond, au-delà de ça, elle était la première personnalité politique féminine dans un parti politique.
Oui, puis aussi première ministre de l'Environnement. Alors, je crois qu'est-ce qu'elle était ministre ou déléguée ?
Alors, elle était vraiment ministre, j'ai vérifié,
oui.
De la transition écologique et au-delà de ça, également de tout ce qui était la biodiversité. Et au-delà de ça, elle avait encore un autre titre, c'était qu'elle était responsable de tout ce qui était les relations internationales. Au sein de l'environnement, tout ce qui avait trait aux conférences internationales, c'était de son ressort.
Alors, donc c'était une ministre de François Mitterrand, premier septennat.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce que tu peux nous... Parce que là, j'ai perdu le fil. Moi, je ne sais plus si elle était la première. On avait eu... Qui on avait eu d'autre comme ministre de l'écologie à cette époque lointaine ?
Ah non, c'était la première. C'était la première, mais je... Ah, tu penses à...
Au maire de La Rochelle. Je crois que c'était plus tard, lui.
Enfin...
Bon, en tout cas, tu veux nous parler d'une grande dame qui a été l'une des premières à s'occuper
de
l'environnement en France.
D'ailleurs, elle racontait, au-delà de ce qu'elle avait à dire sur l'agriculture, sur le désarmement, et notamment sur l'environnement, elle expliquait très très bien quel était le privilège d'être président de la République. Parce qu'elle faisait partie des candidates à l'époque. Et elle disait, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire que vous oubliez peut-être, c'est qu'à l'Élysée, c'est le seul endroit en France où on peut être dans un abri anti-atomique. Je trouvais la réflexion assez...
Oui, mais bon, toi, t'es suisse, t'en as tous les coins de rue des embryettes anti-atomiques. Mais bon, elle n'a pas fait que ça, quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait de grand...
Non, elle a vraiment participé à tout ce mouvement féministe qui lui permettait à elle de dire, bon, il faut arrêter de considérer seulement les partis traditionnels si on ne fait pas également la synthèse de tous les autres petits mouvements qui existent et qui sont nés après 68 et qui pour lesquels elle a été vraiment un porte-parole.
Ok, et tu peux nous dire, en tant que ministre de l'Environnement, ou qu'est-ce qu'elle a laissé des textes, elle a pu s'occuper de certaines choses Non, je t'embête.
Non, mais ça fait pas partie de...
Ah, c'était pas ton angle de...
C'était pas mon angle d'attaque,
bon,
mais
okay.
Je pensais...
Bon, on en reparlera la semaine prochaine.
Ouais, exactement. je pense qu'il faut que je révise est l'héritage et qu'est-ce qu'elle a laissé... au-delà des souvenirs, aussi au sein du Parti Socialiste.
D'accord.
Unifié.
Bon, alors, écoute, cette semaine, il n'y a pas la bonne nouvelle de Théo, donc
Non.
Je vais le dire à tous ses fans. Théo est retenu en otage par les marmottes dans le parc des Écrins. Nous n'avons pas encore de nouvelles de sa chronique, mais je sais qu'il était... qu'il était vivant, on a eu des preuves de vie, mais on aura, j'imagine, une réponse la semaine prochaine. Je pense que les marmottes seront magnanimes et le laisseront enregistrer sa bonne nouvelle.
Et donc la prise d'otage sera terminée.
J'espère. Non, en tout cas, ce serait un drame que de perdre notre chroniqueur adoré. Okay. Bon, bah alors que les marmottes soient sympas et les marmottes des écrins, hein, puisque il est parti faire un stage dans le parc national des écrins. Donc espérons que les marmottes vont le libérer. Alors le dossier de cette semaine, c'est vrai que j'avais ma petite chronique rapidos à faire sur les nouvelles de Roquelaure.
Alors justement, il y avait quelque chose hier.
Oui, alors, parce que sur l'agenda, c'était minimaliste. Hein, alors.
C'était l'un des grands responsables du comité 21, qui s'appelle Gilles Béraud, et qui a créé d'ailleurs une autre association depuis, qui s'appelle les Transitionnaires. Et lui, hier, c'était un événement quand même de pouvoir de se voir décerner l'ordre du mérite.
D'accord.
Et ça a eu
l'ordre du mérite de l'environnement, de l'écologie.
Non, l'ordre du mérite, point.
D'accord, je vais réviser. Non,
il n'y a pas d'ordre du mérite de l'environnement. Mais
je crois qu'il y avait l'ordre du mérite les palmes académiques. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très fort en médaille. Mais si effectivement il n'y a pas eu grand-chose sur l'agenda de la ministre, il y avait eu effectivement ce communiqué de presse sur un petit peu d'état d'urgence sur la canicule. Il y a une petite polémique, savoir si l'État est bien préparé. Semble-t-il qu'ils sont un peu laissés surprendre. Mais bon, c'est vrai que c'était la première fois que ça puisse se faire avoir si chaud en mai.
Mais on ne devrait pas se laisser surprendre, parce qu'au fond, l'Organisation météorologique mondiale, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis.
Mais bon, comme le disait notre ami pompier il y a 15 jours de cela, effectivement, on peut planifier, on peut anticiper. C'est vrai qu'on a manifestement des progrès à faire dans le domaine. Canicule et écologie, et réchauffement climatique, c'est pas tout à fait.
Tu dis échauffement climatique
ou réchauffement climatique. Non, effectivement, j'ai du mal à m'échauffer, mais bon. Ce que je viens de voir, c'est que Air Paris nous a aussi fait son communiqué de la journée, parce que. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'effectivement. Avec la canicule, il y a une dégradation de la qualité de l'air, et notamment due à l'ozone. Et alors l'ozone, ça ne touche pas que les petits poumons des urbains, ça touche également ce qu'on le sait moins, ça touche également les cultures. Et là, je regardais, c'est pas du tout anodin. L'augmentation des teneurs en ozone peut engendrer, selon l'INRA, de 3 à 20% de perte de rendement pour les cultures. Donc la canicule aujourd'hui fait un petit peu trembler nos amis agriculteurs. C'est effectivement, on peut se faire rattraper par là où on pêche. Quoi. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un point vachement important de savoir que la canicule a des effets, au-delà de la sécheresse, de la déshydratation, a un effet sur, pas dire l'intoxication, mais. Donc c'est des mécanismes un petit peu compliqués, que je n'ai pas d'ailleurs tout compris, sur le fait des phénomènes de pollution à l'ozone. Bon, eh bien, ça va nous permettre de passer une petite musique et puis après on attaque avec catapulte, on va se faire catapulter dans les data centers.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Toute ma génération importune, le gouvernement se sent menacé, par la réalité sont rattrapés. Quand je l'allume, je la fume, je la hume et je l'assume. Je ne le cache pas à la société, non, et refuse d'être catalogué. Je suis de ceux qui la légalisent déjà, tcha, tcha, la 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 la, ouais. Je promotionne pas, mais tu sais déjà, tcha, tcha, la 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 la, ouais. Ganja man depuis longtemps déjà, tcha, tcha, la 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 la, ouais. Smoking weed, it's a real pleasure, tcha, tcha.
On parle de cannabis, on parle de sativa. On parle de weed, de ganja, de marijuana. Elle figure sur la liste des drogues à la police. Donc si t'en fumes, sache qu'on va t'arrêter pour ça. Malgré ses vertus médicales, elle reste illégale. Donc toutes ces graines de sa mal, on t'emmène au tribunal. Quand même pour un végétal qui est 100% naturel. Je trouve ça bizarre que l'État le prenne si radical. Antidouleur, antivomitif, antispasmodique. Laisse-moi te citer des cas où l'herbe serait bien d'être prescrite. La sclérose en plaque, le sida et même la maladie de Crohn. Chrysasme, le cancer et contre les glaucomes. Elle est utile dans le textile ou pour en faire de l'huile. Dans la construction et dans l'agrocarburant. Isolation phonique, thermique et même dans les cosmétiques. Dans la papeterie, je m'arrête ici, bonus sensi.
Suite ce qui la légalise déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Je promotionne pas mais tu sais déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Ganja man depuis longtemps déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Smoking weed, it's a real pleasure, ja, ja, ja. Un message à mes petits frères, sachez qu'elle a du caractère. Pas du genre à se laisser faire, peut avoir l'effet contraire pour être plus clair. Selon ton état d'esprit, peut-être ami ou ennemi, elle et moi c'est pour la vie. En même temps, je pense que c'est le bon moment qu'il réalise qu'on est plus d'un million à militer pour sa libération. Alors en attendant, on allume, on la fume, on la hume, on l'assume. Exploité depuis des centaines d'années, yeah, par les grands états et leur armée, yeah. Oh, oh, oh. Quand je l'allume, je la fume, je la hume et je l'assume. Je ne le cache pas à la société, non. Et refuse d'être catalogué, yeah. Oh, oh, oh.
Je suis de ceux qui la légalisent
déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Je promotionne pas mais tu sais déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Ganja man depuis longtemps déjà, ja, ja, la 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 la, ouah.
Smoking weed, it's a real pleasure,
ja, ja, ja.
Je suis de ceux qui la légalisent
déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Je promotionne pas mais tu sais déjà, ja, ja, la 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 la, ouah. Ganja man depuis longtemps déjà, ja, ja, la 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 la, ouah.
Smoking weed, it's a real pleasure,
ja, ja.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur l'YFM pour parler d'un sujet, alors de deux sujets qui s'imbriquent entre les data centers et puis cette nouvelle organisation d'étudiants, dont de jeunes journalistes qui s'appelle un commun qui s'appelle Catapulte. Alors, Jacques, est-ce que tu, qui es à Cannes, c'est bien ça, est-ce que tu nous entends ?
Oui, oui, tout à fait. Bonjour.
Alors, donc Anne nous expliquait tout à l'heure comment était née Catapulte et comment est née cette idée d'aller investiguer sur les data centers.
Mais parce que l'idée de Catapulte fonctionne, il y a un truc qui s'appelle la communication sensible. C'est une communication qui vise à être en amont. Une communication sur risque, la communication d'acceptabilité, une communication relative à des activités contestées. C'est une communication qui est pratiquée par les entreprises depuis fort longtemps et qui vise à prévoir d'éventuels problèmes. La question de la formation sensible, symétriquement, quoi, elle est encore pas très bien posée. Et depuis le développement, je dirais, des données, des réseaux de données dans les années 50, la société du risque, la société du RIGBESC, s'est accompagnée d'un décalage progressif de l'information qui est de plus en plus en retard par rapport à des projections qui sont faites. Et donc, quand on commence à intervenir, il est trop tard. Voilà. Et
okay.
Donc,
ce que tu nous dis, c'est que les gens qui sont à la promotion des projets sont toujours en avance sur les gens qui habitent, à qui on va imposer ces projets. Donc, si je comprends bien, puisque tu es prof à l'école de journalisme, tu formes des gens à traiter ces questions locales de ces enjeux. Est-ce qu'on peut parler de démocratie environnementale dans ce cas-là ?
Ouais. C'est ça. C'est la question de la formation sensible, c'est une question fondamentalement démocratique. Elle se pose pratiquement, quels que soient les régimes politiques, en réalité. Donc, c'est des dimensions de projection et rétablir une forme de démocratie, c'est effectivement s'atteler à la question de l'information sensible. Mais avec toutes les questions que ça pose, hein, comme toutes les détections, oui, les data centers, ça fait un petit moment qu'on aurait pu en parler et mettre ça à l'agenda médiatique, quoi.
D'accord.
Et comme beaucoup de choses, on n'en parle pas, donc il faut prendre un peu des risques, je crois, là-dessus.
Donc, effectivement, c'est un mouvement aujourd'hui, c'est les nouvelles implantations à la mode. Quant au moi, j'ai commencé dans le journalisme, c'était les décharges, les centres d'enfouissement technique.
Et maintenant, c'est les décharges.
Et maintenant, c'est les data centers ou les centres de données. Anne, voulais-tu rajouter quelque chose ?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, donc moi je suis également enseignante à l'école de journalisme de Dauphine, et tous les ans on fait un livre d'enquête environnementale, et en 2025 on a travaillé sur la question de l'eau. Et une de mes étudiantes m'a proposé de travailler sur les data centers. Et sur le coup, je ne voyais pas bien le lien entre l'eau et les data centers. Et en fait, en accompagnant son enquête, j'ai compris qu'en fait, l'eau était une question majeure, tout comme celle de l'énergie. Et c'est à partir de ce travail-là qu'on s'est dit, dans le cadre du commun de connaissances catapulte, que le prototype de ce qu'on voulait faire, on allait le faire sur les data centers. Et les data centers, à l'époque... émergeait assez peu dans le débat public. Il y avait eu le sommet de Macron en février 2025, mais c'est l'IA qui a vraiment tout d'un coup fait apparaître ce sujet dans les radars médiatiques, alors qu'en réalité c'est dès 2022 que se construit tout l'appareil de lobbying, tout ce qui va présider à la préparation en fait et l'installation des data centers en France.
Alors les data centers, alors, j'ai fait ma petite enquête, il y en aurait 350 aujourd'hui en France, et puis imaginez-vous que pour les refroidir les puces, les data centers ont besoin de 670 millions de litres d'eau par an. Donc alors c'est vrai que ça fait des chiffres impressionnants, mais c'est peut-être aussi important de le savoir en termes de consommation énergétique. Aujourd'hui, les data centers consomment 1,5% de toute la production électrique nationale. Mais l'ADEME et RTE prévoient que le nombre des data centers va se multiplier par alors, ils ne savent pas, entre 4, donc, du simple au double, entre 4 et 8 d'ici 30 ou 35, je ne sais plus. Donc, effectivement, on pourrait avoir 5% de l'ensemble de l'énergie produite en France qui ne sert uniquement qu'au cyber. Qu'à refroidir les ordinateurs.
Les ordinateurs.
Alors, ouais. C'est vrai que dit comme ça, quels sont les enjeux, quelles sont les nuisances, on peut se dire, bon, bah, moi, un ordinateur, c'est pas très grave, j'en ai un chez moi.
Non, mais il y a une consommation d'eau quand même qui est.
Oui,
qui est
mais bon, il y a des tuyaux. Alors, pour les riverains, est-ce qu'il y a des nuisances dans vos enquêtes, vous avez pu. Parce que vous avez fait lancer des jeunes journalistes à faire des enquêtes, c'est bien ça.
En fait, le commun de connaissances, c'est à la fois des étudiants, mais c'est aussi des journalistes confirmés, c'est des experts. C'est des ONG, voilà, c'est des gens qui, de manière directe ou indirecte, ont voulu en tout cas participer à cette enquête collective. Donc on a été évidemment, on a très vite repéré les lieux de contestation des data centers. Il y en a une vingtaine en France aujourd'hui. Et il faut avoir en tête qu'il y a à peu près 75 grands projets qui sont liés directement au déploiement de l'IA. Tu l'as dit, François, il y a en gros 350 data centers en France. Les data centers, on en a au fond tous besoin à partir du moment où on a un ordinateur. Oui. Mais il y en a des petits, des moyens, des grands. Là, ce dont on parle, les nouveaux, c'est ce qu'on appelle les hyperscalers. Donc, ce sont des géants qui doivent accompagner la consommation géante de data qui naît de la vague de l'IA. Et toute la question des data centers, c'est à la fois de se demander ce que va être cette société de l'IA, ça c'est pour le débat général, mais pour les habitants, très concrètement, Il y a la question de la chaleur qu'émettent les data centers. On parle de la chaleur fatale. Alors, avec une réponse qui a été avancée pendant un temps, c'est l'idée que, justement, cette chaleur allait permettre de chauffer soit des piscines, soit des logements sociaux. Mais en général, aux frais des communes qui n'ont pas les moyens forcément de raccorder. Donc ça, c'était une première chose, la question de la chaleur. La question de la consommation de l'eau. La question aussi est liée au fait que... il y a une obligation dans les data centers d'avoir des sauvegardes, des possibilités de continuer à fonctionner, même si l'électricité s'arrête. Et dans ces cas-là, ce sont des cuves de fuel qui servent de sauvegarde. Or, ces cuves font du bruit, elles sont testées très régulièrement, donc elles font du bruit, il y a des nuisances sonores, et il y a aussi des inquiétudes sur, sur la dimension éventuelle de risque incendie. Et évidemment, ça émet du CO2 aussi. Alors moi, je suis allée personnellement à Wissou, où on voit, c'est un entrepôt logistique au départ, mais un énorme entrepôt qui s'est transformé en data center pour Amazon, mais c'est l'opérateur s'appelle Cyrus One, et on voit littéralement les maisons collées à ce data center. Et là-dessus, enfin, Wissou, c'est les habitants, en tout cas, il y a eu un collectif qui a attaqué les opérateurs pour ne pas avoir montré d'entrée de jeu l'ampleur du projet. Donc, il y a tout un processus, il y a le tribunal administratif, la cour d'appel, enfin voilà, ils continuent à se battre là-dessus. Donc, il y a à la fois l'aspect habitant direct à côté. D'ailleurs, il y avait une petite école à côté. Je crois que la mairie a décidé de voilà de pas laisser les enfants juste à côté. Et donc il y a cet aspect qui concerne les habitants. Et plus largement, ce qui a été noté par un rapport du Shift Project, c'est que toute l'énergie électrique qui va être captée par les data centers, c'est une électricité qui ne va pas servir à la décarbonation d'autres secteurs. Donc il y a des impacts indirects importants. Par ailleurs, le secteur prend des parcelles, des surfaces foncières très importantes. À Châteauroux, Google a récupéré une parcelle de 95 hectares. Des fois, c'est des friches industrielles, mais enfin, il faut aussi voir que les data centers sont très peu pourvoyeurs d'emplois. Donc, il y a aussi une question pour les communes, alors, les habitants, de savoir si on laisse la place à un data center.
Alors, effectivement, il y a beaucoup plus de conséquences qu'on aurait pu imaginer en regardant son ordinateur. Grosso modo, c'est un petit peu, on se questionne comment va perturber l'environnement, toutes ces installations nouvelles qui émergent de manière un petit peu acnéique, sans qu'on nous ait bien présenté la chose. C'est ça qui vous a motivé en disant, mais on nous dit rien, quoi.
Bah, en fait... On s'est rendu compte que ce secteur vivait, au fond, pour vivre heureux, vivant caché. Au fond, à part le monde professionnel, les data centers n'étaient pas tellement dans le débat public. On parle du cloud, donc il y a quand même aussi une illusion très entretenue sur le fait que le numérique n'est pas de la réalité physique.
Et virtuel.
Voilà, et virtuel. Ouais. Et donc, tout d'un coup, arrive cette vague de l'IA. Et puis, arrivent aussi les décrets de Donald Trump aux États-Unis en juillet dernier, qui souhaitent que le monde soit complètement dominé par l'IA américaine. N'oublions pas que quand on parle d'IA, on parle de données, on parle de nos données, c'est-à-dire de nos existences. Voilà, et on le voit déjà. Hein. Vous avez sans doute déjà testé ChatGPT, en tout cas, je ne sais pas, peut-être, mais on voit bien qu'on est aussi dans une bascule que beaucoup de gens qualifient d'anthropologique, c'est-à-dire que cette arrivée massive de l'IA dans les modes de décision, dans les modes d'organisation, c'est aussi un énorme bouleversement. Mais donc, on a aussi cette vague qui vient de la Silicon Valley qui...
nous impose un avenir qu'on n'a pas forcément décidé.
Oui, et certains, il y avait un colloque organisé par Data for Good qui était passionnant à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, qui parle même d'une logique de comptoir. Comme si l'IA, en tout cas, c'était une nouvelle forme de colonialisation.
Comptoirs commerciaux.
Oui, et s'il fallait installer les comptoirs. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, la ville de Marseille, qui est la ville sur laquelle arrivent tous les grands câbles hein, de ces opérateurs comme Google et autres, est absolument entourée de data centers, de projets de data centers. D'ailleurs, jusqu'à présent, les data centers sont très concentrés en France. Hein. Il y a l'Île-de-France, beaucoup en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, c'est problématique. Marseille et PACA, mais aussi le nord et l'est de la France. Et avec le sommet de l'IA, en fait, la France a dit, écoutez, nous, on a l'électricité décarbonée, donc on ne va pas faire de CO2 avec ça. Donc venez investir et venez construire vos data centers en France. Donc la France fait un appel, en fait, aux investissements sur le territoire français. Et une des craintes des associations, après, il y a ceux qui se battent localement contre un projet de data center précis, mais c'est l'absence de planification, notamment sur la question des ressources en eau, la question des ressources en énergie. Je rappelle au passage que en Irlande, où il y a déjà une saturation de data centers, ce qui fait qu'il y a des tensions électriques qui font qu'on ne peut plus avoir l'électricité dans certains endroits. En Amérique latine, il y a le problème. Et aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un combat contre un data center, il est bipartisan. C'est-à-dire que vous allez retrouver côte à côte des démocrates et des républicains, ce qui est très rare en ce moment aux États-Unis. Donc il y a une vraie inquiétude qui monte sur non seulement l'objectif final de ce que va permettre de faire le data center, les hyperscalers, et toutes les conséquences environnementales en termes de conflits d'usage.
C'est un choix qu'on nous impose sans en...
C'est un choix qui mérite d'être discuté, oui. En tout cas. Et ce qui est très frappant, c'est quand on a pu voir dans différentes villes ou communes, c'est que on a vraiment la sensation, et là, on va produire une carte aussi où on va repérer justement tous ces data centers.
Tous ces 350.
Les 350, ils sont existants. C'est pas voilà. Les projets. Là, nous, en tout cas, sur Catapulte, on s'est concentré sur les projets, les D'accord. nouveaux et les géants.
Alors, on en aura un projet à parler, un très gros projet sur en Seine-et-Marne, au nord de Melun, à Fouju. Mais on y reviendra. Alors, je voudrais entendre Jacques et puis aussi peut-être vos étudiants qui sont en ligne. Alors, comment ils sont intervenus sur le sujet, comment vous leur avez mis le pied à l'étrier, et puis eux, comment ils voient ça, puisque j'imagine qu'ils ont des smartphones, qu'ils n'imaginent pas l'avenir sans numérique. Est-ce que vous nous entendez, Anatole et Lilou?
Aligre FM 93.1.
Ah, pas encore. Alors, Jacques, alors justement, comment tu as abordé ça dans les cours de journalisme environnement à Cannes?
L'idée, je reprends, enfin, c'est vraiment un travail en commun avec Cannes, et disons que l'idée essentielle, c'est celle d'une approche écosystémique des problématiques environnementales qui prend en compte l'ensemble des acteurs, quoi, en fait, bon, avec toutes les vérifications qui s'imposent. Du point de vue de la recherche, notre idée, c'était vraiment d'essayer de permettre à l'ensemble des acteurs concernés de discuter, de produire leurs informations, et qu'on puisse rassembler toutes ces informations dans une espèce de structure hybride de discussion, de commun de connaissances, quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée, et en réalité, ce que cache cette idée-là, enfin ce qu'elle cache, ce qu'elle suppose, c'est vraiment un déplacement des journalistes, des citoyens, des scientifiques, pour établir ces communs de connaissances, au moins à des niveaux locaux, de partager leurs expertises, de partager leurs discussions. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement collaboratif, avec un travail effectivement sur un objet commun de discussion, une base de données en clair, hein, qui rassemble les informations les plus pertinentes sur telle ou telle problématique, et qui peut être mise à disposition à la fois c'est l'objectif
mais,
de...
Mais normalement, ce travail-là, il aurait dû être fait par l'État. Par exemple, sur la méthanisation, alors ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais l'ADEME a produit des données sur tous les centres de traitement des déchets. Il y a une base de données qui nous permet vaguement de suivre l'évolution de tout ça. Et il n'y a pas l'équivalent sur les data centers.
Non, il n'y a pas l'équivalent sur les data centers pour plein de raisons économiques. Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas d'équivalent.
Tu es prêt à intervenir?
De toute façon, l'ensemble des l'idée de le travail journalistique, hein, c'est pas de se contenter des données, ce qu'on appelle le SINT, hein, c'est pas de se contenter des données telles qu'elles sont fournies, mais de les vérifier. Et le travail que font les étudiants, notamment là, c'est tout un travail par rapport aux données qui sont fournies par différents organismes, d'aller vérifier, recouper et valider en fait ces données, parce que les données elles sont intrinsèquement liées à des sources. Et elles sont complexes à interpréter. Donc c'est intéressant d'accord. d'avoir ce travail de journaliste qui va vérifier sur le terrain.
Alors justement, on va,
dont il s'agit.
On va donner la parole à Lilou ou à Anatole, ouais. Savoir ce qu'eux ont pu, comment ils ont mené l'enquête et qu'est-ce qu'ils sont allés voir et quel data center ils sont allés investiguer.
On va tout jouer, Lilou.
Très bien, bah, bonjour, merci pour l'invitation. Donc nous, quand Anne nous a présenté le projet, on n'y connaissait rien au data center. Donc la première journée, on a un peu fait du brainstorming sur quel sujet, quels angles on voulait aborder sur la question. Et donc de mon côté, je me suis penché plutôt sur le...
Alors c'est Anatole qui parle.
Anatole,
oui.
Oui, c'est Anatole qui parle, pardon, je ne me suis pas présenté. Je pensais que vous l'aviez fait. Voilà, sur le volet législatif, donc moi je suis allé m'intéresser aux grandes dates clés et aux grands textes clés qui ont fait que l'installation des data centers aujourd'hui en Europe est possible et surtout est facilitée. Et il y a une grosse actualité là-dessus puisque la majorité de mon travail en France s'est focalisée sur un texte qui s'appelle la loi de simplification de la vie économique et qui en fait transforme le statut des data centers en leur confère un statut juridique particulier qui leur permet de s'implanter plus facilement en se raccordant au réseau électrique de manière plus simple et en pouvant s'affranchir du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. Et aussi, ce texte dit que maintenant, pour s'installer sur un endroit, les financeurs d'un data center n'auront plus à consulter les maires, mais pourront directement s'adresser au préfet. Et donc, il y a cet échelon local voilà, qui saute.
D'accord. Donc, voilà, effectivement, c'est une loi d'exception pour les data centers.
Exactement. C'est une loi d'exception.
C'est une loi d'exception, exactement. Dans le gros package de la loi simplification de la vie économique que vous avez peut-être vu passer, il y avait aussi le sujet des ZFE sur le projet. Mais voilà, je laisse la parole à Lilou.
Bonjour, bonjour, merci. Et donc moi, j'ai voulu travailler sur des data centers qui pouvaient être vertueux ou plus respectueux de l'environnement. Et j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches qu'en fait... il y avait plusieurs projets qui existaient et qui finalement étaient évincés au bout d'un moment, donc je me suis posé des questions et donc après je me suis concentrée sur donc le cas de Google à Châteauroux dont a parlé Anne et donc c'est un il y avait un projet qui avait été mis en place qui pouvait être vertueux dans un cercle avec de l'électricité enfin une partie de l'électricité par des panneaux photovoltaïques, il y avait des serres maraîchères, etc. Et ce data center a un peu disparu et on nous a annoncé que c'était Google qui allait finalement s'installer ici. Donc voilà, moi j'ai travaillé, j'ai enquêté sur ce changement, pourquoi est-ce qu'on ne parlait plus de data center qui pouvait être un peu plus respectueux de l'environnement, voilà. Et aussi, on trouvait votre questionnement.
Oui,
oui quand vous nous avez lancé, vous mentionnez le fait que comment est-ce que, en tant que jeune, on perçoit quel est notre rapport au data center aujourd'hui. Et on en discutait pendant que vous étiez à l'antenne, que en fait, ça a vachement changé, en tout cas, notre rapport à l'IA, et que par rapport aux autres jeunes de notre génération, enfin, en tout cas, les gens qu'on peut croiser dans nos études, etc., il y a beaucoup ce questionnement de est-ce que notre usage de l'IA est réfléchi et nécessaire parce qu'on sait tout ce que ça implique derrière et vachement cette image de cloud un peu immatériel.
Oui, donc on nous a vendu du rêve et du vent quoi.
Derrière tout ça et donc qui nous invite à questionner nos usages. Donc
d'accord, bah écoutez, c'est intéressant. Vous n'êtes pas forcément contre le numérique et les data centers, mais vous êtes contre la manière de faire de les imposer, si je comprends bien.
Oui, c'est globalement ça, oui. On sait
bon,
que...
puis ceci étant, en tant que journaliste, vous êtes ni pour ni contre, mais c'est surtout ouais. La ouais, nécessité de passer de l'information, quoi.
Alors moi, je voudrais savoir s'il y a vraiment une contestation et jusqu'à quel point elle se manifeste ici ou là. Pour les autoroutes, comme l'A69, on est prêt à combattre. Mais est-ce qu'il y a l'équivalent pour certaines installations, comme les data centers?
Ça, on a moins enquêté dessus. Je sais qu'il y a des étudiants de la promotion qui ont enquêté dessus. Nous, pour la carte, on s'est un petit peu penché sur le sujet puisqu'on a essayé de répertorier tous les projets qui avaient amené un soulèvement citoyen. Je sais que pour celui de Aulnay-sous-Bois, il me semble, il y a des contestations citoyennes, mais c'est toujours un petit peu à la marge. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus.
Anne veut nous informer.
Oui, Anatole, pour compléter ce que tu dis, l'association le Nuage était sous nos pieds à Marseille a fait un travail absolument remarquable en fait de sensibilisation sur le sujet. Et d'ailleurs, son nom s'inspire de son équivalent espagnol qui luttait contre les rachats, entre autres, par Meta dans des zones déjà très désertiques en fait de très grandes surfaces pour implanter des data centers. Et donc, s'il y a vraiment des acteurs pour des gens qui auraient envie, qui se posent la question de savoir si un data center vient près de chez eux et qu'ils veulent savoir comment réveiller le débat, qu'ils s'inspirent de ce qui a été fait à Marseille et de ce qui continue à être fait à Marseille. D'ailleurs, le Nuage était sous nos pieds est à l'origine de la première carte qui a
le
été
nuage
diffusée.
Le Nuage était sous nos pieds, c'est le nom de l'association.
Oui, c'est le nom de l'association. Et ils ont été à l'origine de la première carte, en fait, des data centers, des gros projets de data centers en France qui a été diffusée avec reporters. Donc, ils ont vraiment une longueur d'avance parce que Marseille est justement un lieu où se posent des tas de questions à cause des data centers qui se multiplient autour de la ville et des questions aussi de tensions sur le réseau électrique, etc.
Donc, parce que si on résume un peu les enjeux, c'est pas moins de 1500 à 2000 data centers qu'on veut construire en France dans les 5 ans. C'est à peu près ça.
Non, alors nous, on s'est concentré sur les gros, les très gros, parce que c'est pas. Et dans la carte qu'on a, on parle de 73 projets. Mais dans ces projets, il y a par exemple celui de Fujus, qui est un énorme projet. Donc c'est pas tant le fait qu'il y en ait des centaines, c'est la taille de chaque projet et la tension que ça représente sur le réseau électrique, plus tous les impacts qu'on a évoqués.
Et c'est quoi les enjeux en termes de d'IA, en termes de compétition internationale? On a bien compris que derrière, il y a une compétition internationale. Il y a une question éventuellement de souveraineté. On m'a dit qu'à Fujus, c'était Mistral.
Absolument. La question de la souveraineté, d'ailleurs, elle a été totalement mise en avant par Emmanuel Macron au sommet de l'IA. Mais d'accord, souveraineté, mais en même temps, les investisseurs ne sont pas forcément français. La question est de savoir où sont ces datas, où vont ces datas. Et donc, il y a effectivement toute l'action de Mistral de vouloir constituer en fait une filière européenne et française de capacité à construire en fait des data centers. Donc, c'est un vrai sujet, la souveraineté. Mais ça ne doit pas évacuer la question du débat démocratique sur est-ce qu'on veut ces data centers partout avec tout ce que ça va changer pour la société en général.
Oui, puis un minimum anticiper la chose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, grosso modo, avec cette loi d'exception, les investisseurs imposent à... Ce suffit, je dirais, de la décision de l'État, imposent aux collectivités locales une implantation. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui est prévu pour gérer les conséquences autour, quoi.
Disons que le fait, comme l'a très bien expliqué Anatole, de faire des data centers, ce qu'on appelle des projets d'intérêt national majeur, ça arrive sur une situation où il y a déjà peu d'informations, voilà, où il y a peu de transparence sur les tenants et les aboutissants de l'implantation d'un data center dans une ville. Et donc, couper ou réduire les délais de recours, donner la décision au préfet plutôt qu'aux élus, tout ça, ça ne va pas dans le sens, en tout cas, d'une plus grande consultation.
Non, c'est les nuisances démocratiques.
Alors, il y a l'idée, et François, tu l'as dit, en termes de souveraineté, on voit bien qu'aux États-Unis, tout le monde fonce, en Chine, tout le monde fonce, donc il y a l'argument qui est, il faut absolument foncer, et donc, oui, on fait sauter quelques verrous, on parle bien de la loi dite de simplification, mais en fait, nous, ce qu'on dit, et c'est vraiment le propre du commun de connaissances catapulte, c'est que tout est complexe, et que c'est en regardant la complexité qu'on peut trouver un chemin. C'est pas être
et puis de toute manière, c'est pas parce que c'est complexe qu'on n'a pas le droit, que les citoyens n'ont pas le droit d'être informés.
De débattre.
Voilà. Alors, techniquement, est-ce qu'il y a une CREU ? Donc, je ne sais plus, c'est cet organisme pour tout ce qui est implantation énergétique qui est au ministère de l'Énergie, qui contrôle un petit peu toutes les implantations. Alors, ça a le mérite d'exister. Mais alors, franchement, c'est très opaque. Mais là, c'était encore pire. Il n'y a même pas un endroit où c'est rassemblé, quoi, cette information.
Alors, je ne sais pas quelle est la structure au sein du gouvernement, en fait, qui pilote précisément ce que tu évoques. RTE est l'acteur de raccordement. Donc, en fait, on voit avec le nombre de demandes de projets de raccordement, on a une idée, en fait, de l'ampleur des implantations à venir. Par contre, ce qu'on entend beaucoup, c'est tout ça doit être mieux planifié, mieux coordonné entre les différents services de l'État. Et il y a plein de services de l'État qui
sont
concernés.
Alors, quand tu dis, on entend, on dit, c'est qui ? C'est qui dit ça ? C'est les riverains ?
C'est quelque chose que, en tout cas, au cours des enquêtes catapultes, on a entendu aussi bien de la part de certains opérateurs des data centers, qui eux-mêmes ont vu cette espèce de bulle spéculative foncière liée à l'IA, alors qu'eux avaient certes un secteur d'activité, mais tout d'un coup, vous imaginez que vous avez là une horde de chevaux qui arrive, alors que vous êtes en train de paître paisiblement, si je peux me permettre cette image, pour les opérateurs de data center. Donc eux-mêmes
se sont fait bousculer et marcher dessus, quoi.
Et il faut savoir aussi que pour le secteur de l'immobilier, il y a potentiellement un effet d'aubaine, un moment où le secteur était un petit peu à plat. Donc il y a une espèce de course aux surfaces.
Parce qu'effectivement, on a déjà connu ça à d'autres époques, notamment au moment du développement du photovoltaïque, où il y a eu Sarkozy, il y a eu une espèce d'effet d'aubaine qui a été, sur lequel se sont rués un certain nombre de gougnafiers pour mettre en place des montages économiques financiers absolument délirants, dont malhonnêtes. Est-ce qu'il pourrait pas avoir ce risque de, tu parlais de bulle spéculative, est-ce qu'il ne peut pas y avoir cette espèce d'effet d'emballement
Un emballement, mais d'ailleurs, les pouvoirs publics en sont très conscients, à tel point que là, il y a un rapport qui vient d'être produit avec 19 propositions de changement des modes de fonctionnement du secteur. Et ça part bien du fait qu'il faut mieux cadrer tout ça. Alors, il y a des mesures qui visent à accélérer et il y en a d'autres qui visent à mieux encadrer et à éviter l'effet d'aubaine, en fait. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, ça c'est la partie recherche, dont Jacques et les enseignants chercheurs se sont aussi occupés dans le projet Catapulte, c'est que les technologies de l'IA elles-mêmes évoluent à très grande vitesse. Donc, est-ce qu'on va se retrouver avec des géants alors que dans 4-5 ans, peut-être que tout ça sera beaucoup plus petit, différent. Donc ne nous laissons pas, en tout cas, avaler, embarquer par la vague spéculative de la Silicon Valley actuelle. C'est ça le danger.
Ok, écoute, on va digérer ce constat par une petite pause musicale. Et puis après, tu nous expliqueras dans pratiquement comment tout ça se... comment on peut accéder à votre information. Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Il faut un autre monde, il faut un autre soleil. Il faut d'autres regards, il faut d'autres sourires. Il faut un autre monde, il faut un autre soleil, il faut d'autres regards.
Si la vérité était écrite, il y aurait beaucoup moins d'hypocrites. tout un récit qu'ils ont caché. L'atrocité de leurs pensées qui continuent de nous agresser. On peut pas changer le passé, surtout pas ressasser ce qui s'est passé, ce qu'ils peuvent pas effacer. COD, ex-codex de nos ancêtres, dans nos squelettes, idéothèque, bibliothèque, culture dans nos sépultures.
Prison dans la tête, la liberté dans les lettres. Y'a qu'un être de maison pour obéir à son maître. Oublier d'être ce qu'on est pour plaire à tous les autres. C'est faire de nos ancêtres un mythe qui nous fait défaut. La vie est une épreuve, ne crois jamais le contraire. Ne tire plus jamais sur ton frère. Arrête le jaune Homer. Mange plutôt la vie comme le homard. Je reste au village pour la faire comme dans Ozark.
En dépit du mal qu'on se fait, j'effacerai les séquelles. L'amour comme seule sentence. Que vive la France. En dépit du mal qu'on se fait, j'effacerai les séquelles. L'amour comme seule sentence. Vive la France.
Le diable instaure la peur, nourrit les flammes. Les vieux brasiers se rallument, par assasier cette vengeance que mon histoire réclame. On brainstorm sous la lune, retour à bois caïman. La plume remplace les machettes, j'ai fait un poids immense à l'opposé de la brume, là d'où les âmes s'achètent. J'assume pour ce morceau comme un cri de ralliement. J'efface les sourires bananiens, tes rêves d'Audemars. Brûle le code noir, retour au code Bamana.
Notre âme bat le tam-tam comme shuriken. La réparation va dans notre épiderme. Parce que notre peine est irréparable. L'aurore ne peut être prise en otage. Habite une blessure qui est devenue sacrée. La justice écoute aux portes de la beauté. Dessinons sans maudire ensemble un autre avenir. À advenir.
En dépit du mal qu'on se fait, j'effacerai les séquelles. L'amour comme seule sentence. Que vive la France. En dépit du mal qu'on se fait, j'effacerai les séquelles. L'amour comme seule sentence. Vive la France.
Je souffre encore des stigmates de la colonisation. Pupilles dilatées, pillages et crimes de guerre.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Alors, c'était qui, Armand?
C'était Abdelmalik.
Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, alors donc, on est à parler de deux choses en même temps, à la fois des data centers et de leur impact sur l'environnement, et puis surtout sur la manière qui s'impose aujourd'hui dans le paysage français, comme une espèce d'éruption d'acné maladive, et puis aussi sur les modes d'organisation de l'information avec ce commun de catapulte qui été créé par Anne et puis par Jacques. Mais Catapulte, c'est uniquement à Cannes, dans l'école de Cannes et dans les écoles, ou c'est...
Non, l'objectif de Catapulte, en fait, alors c'est pour ça qu'on dit que c'est une recherche-action, parce qu'il y a à la fois une dimension de recherche et d'action avec le prototype sur les data centers. Nous, ce qu'on veut, c'est créer, donc, et on l'a créé sur les data centers, sur un outil qui s'appelle CryptPad. On a rassemblé toutes les connaissances qu'on pouvait avoir sur le sujet data center avec l'idée que ça puisse servir à d'autres journalistes qui démarraient sur le sujet. Et ce qu'on veut faire avec Catapulte, en ayant, parce que là c'était une démarche totalement bénévole, dans une étape 2 où on aurait des moyens et des soutiens, c'est de pouvoir faire des catapultes, comme on l'a fait sur les data centers, sur d'autres sujets super importants, mais dont on ne parle pas forcément beaucoup.
D'accord, donc voilà. Le but du jeu, c'est de faire émerger tous ces sujets un peu souterrains.
Oui, et de créer un commun de connaissances qui fait que vous ne démarrez pas de rien quand vous devez enquêter sur le sujet.
D'accord.
C'est vraiment dédié au métier.
Parce qu'effectivement, on a vu plus d'un camarade journaliste aller faire des reportages sur des installations pour rendre un papier le soir alors qu'il n'y connaissait rien le matin. Mais bon, c'est la dure loi de la presse quotidienne. Alors, on va peut-être, pour Jacques, on va laisser la parole à tes étudiants. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent nous présenter leur master, Ben
Anatole?
Nous, on est au Master Jet, journalisme environnemental de la transition, à l'Université Côte d'Azur. Donc, c'est un master fraîchement créé. On est la toute première promotion. Et donc, voilà, qui destine les étudiants je vais peut-être laisser Lilou finir. Ah non.
Oh, super, vas-y.
Oui, voilà. Donc, qui destine les étudiants pour les métiers de la presse, notamment presse écrite et presse radio. Enfin, voilà, radio et écrit. On ne fait pas de.
Bon, bah, écoutez. Voilà. Vous êtes en terrain de connaissance.
Et Lalou, t'as quelque chose à dire?
Lilou.
Et on a des cours concentrés donc sur l'environnement avec des scientifiques, des intervenants, enfin des communicants, par exemple à l'INRAE, qui viennent nous faire des cours pour nous aider à vulgariser la science et informer sur l'environnement.
D'accord. Voilà. Alors j'avais cru comprendre que c'était lié aussi à la presse locale.
On avait cru comprendre que c'était lié aussi à la presse locale.
Alors en effet, il y a pas mal de partenariats entre le master et la presse locale dans nos professeurs titulaires. Je pense notamment à Aurélie Télévy, qu'on embrasse, qui est une de nos professeurs et qui exerce à Nice Matin en même temps. Donc voilà, il y a des passerelles à ce niveau-là de journalistes
d'accord.
professionnels qui
okay. nous donnent des cours. Donc effectivement, c'est vrai que le lectorat de la presse locale est tout à fait bien concerné par ces sujets-là. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de traiter l'information de proximité quand elle est un peu technique. Alors... Bon. On va conclure parce
on va
que
conclure, hein.
Bah oui parce qu'on est obligé et puis
et
parce
on vous
que
souhaite du succès pour la recherche.
Voilà. Donc tous vous souhaitez des bons articles, j'imagine que vous allez faire des articles, des émissions de radio sur la question ou pas.
Alors qu'est-ce que vous faites comme vous allez faire des émissions, vous allez faire des articles
sur Catapulte. Alors il y a déjà des articles qui ont été écrits de nos côtés, mais je pense qu'effectivement ce sera un atout pour nous plus tard, puisque ce sera un sujet sur lequel on aura déjà travaillé, on aura déjà les bases et
vous serez déjà affûté.
Et c'est le moment de faire votre pub, hein.
Voilà.
De Catapulte.
Mais
voilà, on va.
Ouais. Mais Ad va nous expliquer où elle.
Donc, voilà, vu que c'est un thème qui va apparaître dans le débat public sur les 10 prochaines années, c'est sûr, c'est vraiment un avantage pour nous d'être à ce point-là informés.
Okay.
Bon, alors, Anne, où on peut retrouver Catapulte? Allez. Comment on peut accéder?
Alors, pour l'instant, ça va peut-être vous surprendre, mais à peu près nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, la prochaine étape, c'est que nous, on a d'abord privilégié le fait de comprendre. Alors, on peut retrouver Catapulte sur CryptPad, mais là, je pense qu'il y a peu de gens qui ont l'habitude d'accéder à CryptPad. Et on est en train de préparer un site Catapulte où seront diffusés les
d'accord.
articles faits par les étudiants et tout le travail qu'on a fait.
Et puis toutes les bases de données d'information.
Voilà.
Bon, bah écoute,
bravo. Bravo, Anne.
Oui, bah voilà, bon, super. Alors
merci.
Moi, je voulais rappeler quand même que la tenue le week-end du 5, 6 et 7 juin à Montbard du premier festival d'histoire naturelle, parce que bon, vous avez tous compris que la biodiversité est un de mes dadas. Donc, comme il y a le festival de géographie en septembre ou en octobre, bah maintenant il y a le festival d'histoire naturelle. Donc c'est tout à fait important à connaître. Donc voilà. Alors Ben, as-tu une info pour finir la semaine?
Mais il y a effectivement l'Association française des Nations Unies, l'AFNU, qui organise quelque chose, qui a prévu quelque chose pour le 2 juin.
Et alors ?
C'est une journée entière sur l'océan.
Ah ! Donc des nouvelles règles de l'océan, comme on en a parlé l'année dernière avec l'UNOC. C'est les suites de l'UNOC, alors je crois que...
Le traité des hautes mers, c'est ça le vrai débat.
Anne ?
Alors, moi, je veux juste dire un truc, parce que Lilou et Anatole, et il y en a d'autres dans la promotion, c'est qu'ils se sont vraiment engagés sur le sujet data center, donc je voulais vraiment les remercier, parce que eux, comme d'autres étudiants de l'IFP, se sont
vraiment
emparés du sujet.
D'accord.
Et ensuite, ils ont été rejoints par des journalistes plus confirmés, pointus, qui connaissaient des experts, mais ils y sont allés avec leur cœur, avec leur énergie, et je leur dis bravo.
Qu'ils reviennent, on leur accordera toujours une place dans les arènes de l'écologie.
Et dans nos cœurs.
Oui, bien sûr. Et il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine, caniculaire, de toute manière. À la semaine prochaine, en espérant qu'il fasse plus frais. Merci à tous. Bonne semaine.
Bonsoir.
Au revoir, Jacques.
Et si vous avez sué, c'est aussi pour l'effort.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.